Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec vous, Souada Kermani. Israël se prépare à répondre à une proposition de cessez-le-feu à Gaza soumise par le Qatar et l'Égypte. Au Pakistan, d'intenses pluies de mousson ont touché le nord du pays, le bilan est lourd. Notre dossier du jour, après une réunion majeure hier à Washington sur la guerre en Ukraine, une rencontre Poutine-Zelensky est espérée en Europe d'ici 2 semaines. Une rencontre Poutine-Zelensky espérée en Europe sous 2 semaines avec un sommet tripartite avec Donald Trump. Les alliés de Kiev formaliseront des garanties de sécurité d'ici 10 jours. Emmanuel Macron veut une armée ukrainienne robuste et plus de sanctions si les négociations échouent. L'UE se réunira mardi. La Suisse, elle, est prête à accorder l'immunité à Vladimir Poutine. Moscou lui exige des garanties pour sa sécurité. L'Ukraine a récupéré 1000 corps de ses soldats qui ont perdu la vie sur le front avec la Russie. Le rapatriement des dépouilles et les échanges de prisonniers de guerre demeurent l'un des rares terrains de coopération entre les deux parties. L'espoir d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza verra-t-il le jour? C'est désormais possible. Le Hamas a accepté la proposition de trêve qui reprend presque intégralement le plan précédent approuvé par Israël selon le Qatar. Cette proposition des médiateurs comprend une trêve de 60 jours avec l'État hébreu, incluant une libération d'otages en 2 phases. Et hier soir, les forces israéliennes ont assiégé l'école de Sabra et un centre de l'UNRWA à Gaza. Un bombardement qui a tué 2 personnes, dont un journaliste et blessé plusieurs autres. L'ONU dénonce le blocage de la livraison d'abris à Gaza. L'organisation n'a pas été autorisée à livrer des abris dans l'enclave après l'annonce par Israël de son plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins. L'Iran prévient que la guerre avec Israël peut reprendre à tout moment, tout en affirmant ne pas la souhaiter plus de 2 mois après un conflit meurtrier entre ces deux pays. Le Pakistan est touché depuis plusieurs semaines par de fortes pluies de mousson exacerbées par le changement climatique. Environ 400 personnes ont perdu la vie, des villages entiers restent isolés et les secours pakistanais peinent à atteindre les zones sinistrées. En France, Emmanuel Macron estime que François Bayrou a les capacités pour tenir jusqu'en 2027. Le président ne souhaite pas de nouvelles dissolutions, soulignant qu'il revient aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Et c'est la fin de votre point d'actualité et place à votre dossier du jour à présent. Vous êtes à l'écoute de Radio Orient, notre dossier du jour, l'avenir de l'Ukraine, au cœur d'une réunion lundi soir à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens. Une rencontre survenue moins de 3 jours après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Avant de revenir sur cette réunion majeure avec le député des Français de l'étranger Frédéric Petit, fin connaisseur du dossier ukrainien, focus sur les régions ukrainiennes occupées par la Russie, notamment Donetsk et Lugansk, avec François-Xavier de Calonne.
Oui, ces deux régions frontalières de la Russie forment le Donbass, le bassin industriel et minier, dont la conquête est une priorité du président russe. Les troupes russes tiennent plus de 99% de la région de Lugansk et 79% de celle de Donetsk, ainsi que leur capitale régionale. D'après les autorités locales, quelque 242 700 personnes vivent encore dans la partie de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien, qui comprend plusieurs villes importantes. Une région considérée comme une forteresse qui protège le reste du pays. Mais l'armée russe avance et menace les centres de logistique militaire ukrainien qui la composent.
Regard aussi sur la région de Kherson, occupée puis partiellement libérée.
Et au début de l'invasion, la région de Kherson, connue pour son agriculture, avait été presque entièrement occupée par l'armée russe. Mais une contre-offensive ukrainienne avait permis de repousser les troupes de Moscou et de reprendre la capitale régionale éponyme en novembre 2022. Grâce au fleuve qui fait office de rempart naturel, le front y est depuis relativement stable, comme dans la région de Zaporijjia. Et l'Ukraine garde le contrôle de leurs principaux centres urbains. Les troupes russes sont environ 71% du territoire de la région de Kherson. Quant à Zaporijjia, région nucléaire, eh bien, les soldats russes y sont présents sur 74% du territoire. Ils tiennent notamment depuis les premières semaines de la guerre la centrale nucléaire, la plus grande d'Europe. Elle a été mise à l'arrêt, mais sa sécurité est jugée précaire. La centrale est située proche des combats et la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de de la visée.
Il existe aussi des cas particuliers à l'image de Soumy et Kharkiv.
Et oui, en plus des régions dont la Russie revendique l'annexion, ses troupes mènent des incursions dans celles de Soumy et Kharkiv, dans le nord-est, et malgré de fréquents bombardements, la Russie ne tient aucune ville d'ampleur et n'est présente que dans 5% du territoire dans la région de Kharkiv et 1% dans celle de Soumy. Le Kremlin affirme vouloir y constituer une zone tampon afin d'empêcher des offensives ukrainiennes en Russie.
Et bien sûr, il y a le contrôle russe sur la Crimée.
Et oui, déjà 11 ans d'occupation. Le contrôle russe sur la Crimée est particulièrement appuyé. Moscou a annexé ce territoire en 2014 après un référendum dénoncé par la communauté internationale. La Russie aimerait obtenir la reconnaissance de son annexion par les pays occidentaux et par Kiev. Donald Trump avait déjà prévenu dimanche soir qu'il n'était pas question que l'Ukraine reprenne le contrôle de la Crimée.
François-Xavier de Calonne, vous avez réalisé ce matin un entretien avec un spécialiste du dossier ukrainien après la réunion décisive lundi soir à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.
Et oui, Swada, lors des discussions, l'idée d'une rencontre entre les présidents russes et ukrainiens a été actée. C'est une première depuis le début du conflit, mais il s'agit de l'idée d'une rencontre, pas encore d'une rencontre. Notre invité, Frédéric Petit, député MoDem de la 7e circonscription des Français établis hors de France, membre de la Commission des Affaires étrangères. Et pour lui, eh bien, une telle rencontre paraît improbable. Frédéric Petit.
Ça serait une victoire chorégraphique de Zelensky, puisque Poutine ne le reconnaît pas. Donc moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, parce que la presse russe ce matin dit, le communiqué officiel du Kremlin et la presse russe disent oui, nous sommes d'accord sur une nouvelle réunion au sommet entre l'Ukraine et les Russies, mais le premier point, c'est de savoir comment on fait les délégations. Donc eux ne parlent pas de Poutine-Zelensky. Si Poutine accepte de se trouver officiellement d'égal à égal en face de Zelensky, il recule. Puisqu'il a toujours dit que c'était pas le... Zelensky non seulement est un nazi, machin, etc., mais en plus n'est pas le représentant légitime de la région de l'Ukraine. Voilà. Donc ça serait assez fort, mais moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il y aura des échappatoires, ou alors que ça se fera pas la semaine prochaine, quoi.
Comment vous avez perçu cette rencontre ce lundi soir, ce face-à-face entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, très différent bien entendu du précédent, notamment dans le ton employé par Donald Trump?
C'était un très grand progrès, on va dire, comme ça pour être gentil, du côté de Donald Trump. D'abord, ce n'était pas un face-à-face. Il y avait quand même toute la coalition des volontaires autour avec Zelensky. Et c'était vraiment, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais c'était table complète, quoi. Et de l'autre côté aussi. Il y a une chose aussi sur la composition des tables et des rencontres.
Je pensais à la conférence de presse avec Donald Trump.
C'est un juste retour des choses, un juste retour de balancier par chorégraphique. Là, c'est clair que là, il y avait Zelensky, il y avait Donald Trump, et ils étaient en plein accord, et c'était une image forte, ça, la conférence de presse commune. Bien sûr, ça c'était clair, évidemment.
Est-ce que les Européens jouaient leur crédibilité ce lundi soir?
Oui, je crois que le mot est un peu fort. Oui, ils jouaient quelque chose, c'est sûr. Je crois que le mot est un peu fort parce que je suis, comme je dis souvent, je suis trop vieux pour être pessimiste, moi. Et je crois que l'Union Européenne, un peu comme je l'ai dit sur cette histoire de ramener le droit sur la table, l'Union Européenne, finalement, est assez lente. On est tous un peu frustrés, on dit mais voilà, il n'y a qu'à Faucon. Mais finalement, quand on regarde l'histoire avec un petit peu de recul, l'Union européenne dit les choses importantes à chaque moment, quoi. Elle ramène les choses importantes, quoi. Le droit, les garanties de sécurité, quand même, cette nuit, ce qui s'est passé, c'est que Trump a dit oui, ok pour les garanties de sécurité, y compris des garanties qui sont des garanties qui imposent de l'armement militaire et de la présence militaire. Il l'a reconnu. Et ça, c'était quelque chose qui a qui était refusé catégoriquement par le Kremlin. Le Kremlin, les garanties de sécurité qu'ils ont proposées à Anchorage, c'était « on va changer notre loi ». C'est parler d'une garantie de sécurité si la Douma décide que... c'est ce qu'a proposé Poutine. Il a dit « on fera une loi à la Douma qui nous interdit d'attaquer l'Ukraine ». Oui, d'accord, quand tu as envie d'attaquer l'Ukraine, tu feras une loi dans l'autre sens. Et puis, ce n'est pas une garantie de sécurité. Et là, hier, Trump dit garantie de sécurité, ça veut dire matériel, ça veut dire troupes, ça veut dire garantie de sécurité, quoi. C'est quelque chose de fort. Je ne sais plus comment a dit Mélanie. Mélanie a dit, je ne l'ai pas lu en français, donc elle dit à l'image de l'article 5. Elle a utilisé le mot article 5. Donc c'est un degré supplémentaire de ce qu'on appelle une garantie de sécurité, quand même.
Une réunion comme celle de ce lundi soir souligne l'impossibilité pour l'administration américaine de s'entendre avec la Russie sans la participation de l'agressé, en l'occurrence l'Ukraine, et des
Oui,
Européens aussi.
et les Européens, moi je crois qu'on est très calmement, très solidement, discrètement peut-être, pas toujours dans le buzz, dans la chorégraphie que souhaiteraient les médias en continu, mais on est solidement à la table. La table a été prévue pour nous, on n'était pas dans un coin de la pièce, on était dans une table où la table faisait la longueur de la délégation européenne, hein, voilà, pour dire les choses simplement. C'est une grande table à la hauteur de à la longueur de la délégation européenne. Et on y est revenu calmement, mais fermement, et surtout sur ce que nous, on a à dire au monde, quoi. C'est-à-dire pas, on n'est pas là pour dire regardez, voilà, la présence du Finlandais était assez exceptionnelle. La Finlande, c'est toute l'histoire de la résistance à l'impérialisme russe depuis des siècles. Victorieuse, voilà. Enfin, victorieuse, qui a négocié, qui a perdu un peu de territoire, etc., mais qui est toujours là. Voilà. Donc, il y a du symbole, qui est du symbole extrêmement fondateur pour l'Union européenne. Recherche de la paix solide, garantie de sécurité, droit international. On ne cesse pas faire si on nous agresse. Voilà, il y a quelque chose qui est assez exemplaire de notre côté, et on l'a fait sans mouliner, sans rodomontade.
Et l'Union européenne avait besoin de montrer cela également.
Oui, bien sûr. Et je trouve qu'elle l'a montré dans un style qui est aussi notre style. Le style français, le style de l'Union européenne, c'est-à-dire de pas chercher à faire des grands coups médiatiques, mais de répéter les choses inlassablement, en rappelant, en rappelant, en rappelant, puis un jour en disant, bah oui, bah voilà, nous on a rappelé, maintenant c'est sur la table. Voilà. Comment on va faire pour que, voilà, cette nuit, il y a quand même Trump qui dit, oui, évidemment, échange de territoire, ça ne peut se faire, ça ne peut se faire, il l'a dit cette nuit, ça ne pourra se faire que entre la Russie et l'Ukraine. Le droit international ne peut pas dire, toi tu donnes ça à lui et lui il prend ça à toi. Il n'a pas le droit. Et donc, quelque part, on avance vers la reconnaissance du droit international, qui est quand même le grand malade aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est bien.
C'était Frédéric Petit, député MoDem de la 7e circonscription des Français établis hors de France, membre de la commission des affaires étrangères. Il répondait à François-Xavier de Calonne. Merci de votre écoute. Merci à Mohamed Bizri pour la réalisation. C'était Souada Karmani et François-Xavier de Calonne. Et excellente suite des programmes sur Radio Orient.